Chers amis et fidèles auditeurs de notre émission du dimanche matin, bonjour. Et bonjour aussi à Robert Leborgne que nous retrouvons ce matin.
Bonjour Nicole.
Alors nous avons vu lors de la dernière interview que Dieu avait créé les hommes et les animaux et les plantes de notre mère la terre. Et dans le texte de la Genèse, il est dit que l'existence de l'homme repose sur trois relations fondamentales. La relation avec Dieu, qui a créé l'univers et fait l'homme à son image, la relation avec notre prochain et la relation avec la terre. Mais le pape, dans l'état des lieux qu'il dresse de notre planète, dans le premier chapitre, pousse un cri d'alarme en écrivant ceci. Si le regard parcourt les régions de notre planète, il s'aperçoit immédiatement que l'humanité a déçu l'attente divine. Nous verrons aujourd'hui quelle est la responsabilité de l'homme dans la crise écologique. C'est le chapitre 3 de l'encyclique Laudato Si que Robert va nous résumer à présent.
Oui, nous sommes les héritiers de deux siècles de changements énormes sur le plan technique. Et l'on pourra citer la machine à vapeur en premier lieu, mais vite dépassée par d'autres sources d'énergie, toutes les utilisations de l'électricité, avec entre autres l'éclairage, l'informatique, la robotique et les développements de la médecine sous tous ses aspects. En ont découlé les énormes progrès de l'homme, comme jamais auparavant, et rien ne garantit que l'humanité saura toujours bien s'en servir. Nous pouvons en effet affirmer qu'il lui manque une éthique solide, une culture et une spiritualité qui puissent le limiter. Tous ces progrès de la technique sont à l'origine de l'idée d'une croissance infinie qui a enthousiasmé beaucoup d'économistes, de financiers et de savants. Cette idée de croissance sans limite suppose une disponibilité infinie des biens de la planète, ce qui est une grave erreur car c'est supposé que l'on puisse les régénérer rapidement. Il en résulte une dégradation du milieu et aussi de la vie sociale, car dans ce dernier cas, la surconsommation aura une emprise sur l'économie et sur la politique. En attendant, c'est la surconsommation et le gaspillage. On peut ajouter à ce tableau que la technologie étant excessivement spécialisée, il est difficile d'avoir une vue d'ensemble, une vue globale des problèmes, notamment écologiques. Et pour terminer, le pape écrit que quand on ne reconnaît pas la valeur d'un pauvre, ni celle de l'embryon humain ou d'une personne handicapée, on écoutera encore moins les cris de la nature elle-même. Encore une fois, tout est lié et l'on ne peut pas envisager une relation avec l'environnement qui soit isolée de celle que nous avons avec nos semblables et avec Dieu.
Vous venez de dire quelque chose de très important, c'est que tout est lié et qu'il faut considérer non pas la seule économie ou le seul environnement, mais la totalité. C'est ce que le pape appelle l'écologie intégrale dans le chapitre suivant de l'encyclique. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'écologie intégrale ?
Ce titre d'écologie intégrale regroupe un certain nombre de paragraphes qui ont souvent trait à l'environnement de notre planète, mais pas toujours. Certains, en effet, touche à des notions plus générales, comme la vie quotidienne ou la justice entre les générations. Mais dans tous les cas, le terme « intégral » est bien choisi, car il stipule que tout est lié, et c'est le point sur lequel le pape veut insister dans son encyclique. Les sociétés sont liées à leur environnement, et il ne faudrait pas penser, par exemple, qu'il y a une crise sociale et une crise environnementale, alors que c'est une seule crise socio-environnementale. De même, on devra adopter une approche intégrale pour combattre la pauvreté, rendre la dignité aux hommes et en même temps préserver la nature. De la même façon, ce que le pape nomme écologie économique doit tenir compte à la fois de la protection de l'environnement et du contexte humain, la famille, le travail, les relations humaines. L'écologie sociale, autre écologie, est la gestion d'une nation et va de la famille au pays et au-delà aux relations internationales. Ce qui est ensuite dit sur l'écologie culturelle concerne l'importance des richesses culturelles qu'il faut sauvegarder car elles sont un trésor pour l'humanité. Ainsi, la disparition d'une culture peut-elle être aussi grave ou plus grave que celle d'une espèce animale ou végétale ? Enfin, l'écologie de la vie quotidienne concerne l'espace où vivent les personnes. Ce cadre qui nous entoure influe sur notre manière de voir la vie, de sentir et d'agir. C'est surtout le problème des villes, et l'un des remèdes est l'amour, car les barrières de l'égoïsme sont alors dépassées. Le pape parle aussi dans cette écologie de la vie quotidienne, des transports et du respect que l'on doit avoir de son corps. Le principe du bien commun qui est ensuite abordé peut être rattaché à l'écologie de la vie quotidienne, et le bien commun c'est l'ensemble des conditions sociales qui permettent tant au groupe de personnes qu'à chacun de leurs membres d'atteindre la perfection, et il est basé sur le respect de la personne humaine, avec des droits fondamentaux et inaliénables, le bien-être social et la sécurité. Il suppose enfin la solidarité et une option préférentielle pour les plus pauvres. Enfin, le paragraphe sur la justice entre générations me semble très important, car il aborde la question de savoir ce que nous laisserons à nos descendants. La terre que nous avons reçue appartient en effet aussi à ceux qui viendront après nous. Quel monde voulons-nous laisser à ceux qui nous suivent ? Et cela ne concerne pas que l'environnement, mais aussi les valeurs dont nous avons hérité. Or, les prévisions catastrophistes nous obligent à penser dès maintenant à ce que nous devons faire pour sauvegarder ces valeurs.
Merci beaucoup, Robert, pour ces réflexions passionnantes qui donneront, je l'espère, envie aux auditeurs de lire cette encyclique si riche. Et le temps qui nous est imparti est maintenant écoulé. Nous devons donc arrêter là pour ce matin. Et je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour la fin de nos interviews sur Laudato Si. Merci beaucoup. Et merci à vous, chers amis, d'être fidèles, encore une fois, à ces rendez-vous qui, je l'espère, vous apportent beaucoup. Et nous vous souhaitons un très bon dimanche, une bonne semaine, et vous donnons rendez-vous dimanche prochain.